Le bonheur, c'est le progrès. Faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi 10 mai 2021. Et nous allons commencer aujourd'hui par un petit sujet que nous avons déjà diffusé les années précédentes sur le massacre des Algériens à Sétif le 8 mai 1945.
On continuera à l'international comme d'habitude avec un point d'abord sur les résistances armées qui ont lieu en Birmanie. On continuera ensuite avec un sujet sur les émeutes à Jérusalem Est contre les expulsions coloniales, et on finira avec un petit point sur les élections en Espagne et à Madrid, et qui signe l'échec du projet réformiste de Podemos.
Pour l'actualité nationale, on parlera tout d'abord d'une nouvelle tentative de licenciement abusif à la RATP avant de parler de la mobilisation dans les lycées.
Et au local, on reviendra sur une petite autoréduction qui a eu lieu à Carrefour ce vendredi.
Et tout de suite, on commence par un petit sujet sur le 8 mai 45 à Sétif, Guelma et Kerata, un sujet qu'on avait déjà diffusé il y a 2 ans, je crois, et qu'on réécoute tout de suite pour commémorer nos morts à nous.
La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est.
Et pour la première fois, le cri des sirènes devient un chant. Et les cloches de tous les clochers s'ébranlent pour un nouveau Noël. La naissance d'une nouvelle paix pour les hommes de bonne volonté. Une sorte de passion commence à animer la ville. Il n'y aura jamais assez de drapeaux, ni assez de joie, ni assez de cloches, ni assez de ciel.
Et non, 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 nous n'allons pas fêter la capitulation allemande, ni la belle victoire de la France, celle-là même qui a collaboré avec le régime nazi de Vichy jusqu'à Bordeaux. Et non, parce que pendant que les Français se réjouissent en Algérie, l'armée française commet un des pires massacres de son histoire coloniale. On a donc voulu vous redire ce soir un peu cette histoire oubliée que les manuels de l'éducation nationale et ses profs aux ordres éludent le plus souvent. On a voulu aussi rappeler que si la guerre était finie pour les uns, elle devait prendre une autre forme pour les autres et que nous, on est plutôt du côté de cela. Alors on va revenir un peu plus en détail plus tard sur le déroulé de ce 8 mai 45 en Algérie pour dresser un tableau rapide. En fait, à l'annonce de la capitulation allemande, des milliers d'Algériens sortent dans la rue pour rappeler leur désir d'indépendance et avec l'espoir que la fin de cette guerre leur ouvre de nouvelles perspectives de libération. Et c'est dans l'Est algérien, et particulièrement dans les villes de Sétif, Guelma et Kerata, que ces manifestations spontanées seront le plus durement réprimées. Donc les chiffres sont très disparates, hein, mais on situe vraisemblablement autour de 40 000 morts pour ces quelques jours de mai 45, où les Algériens ont cru pouvoir partager la victoire. On va écouter tout de suite Kateb Yassine nous parler du contexte dans lequel interviennent ces massacres.
C'est le rationnement, tout était rationné, tout était au marché noir, il y avait la famine. Je ne sais pas si on imagine vraiment ce que ça veut dire, la famine. Moi, j'ai vu de mes propres yeux un homme mort de faim à ce type dans la rue. Et il était à moitié nu, parce qu'on ne trouvait même pas de quoi s'habiller non plus. On ne trouvait strictement rien. C'était la misère la plus noire. Il y avait d'ailleurs, la misère amène d'autres choses, des épidémies par exemple. Il y avait une épidémie de typhus terrible au village où j'étais, près de Sétif. Enfin, les gens allaient au cimetière plusieurs fois par jour. On mourait par famille entière, parce que toutes les familles étaient décimées. Et vraiment, c'était une épidémie qui a fait beaucoup, énormément de victimes. La misère, bon, ces épidémies-là, et puis tout d'un coup, l'annonce d'une victoire devait se concrétiser par un changement. Une grande espérance, c'était de voir l'Algérie se libérer en même temps que la France et établir avec elle d'autres liens que les liens coloniaux.
Comme on l'a entendu dans l'extrait donc, de Kateb Yassine, le quotidien des Algériens au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est la famine, le chômage et la misère. Donc en plus de la guerre et de la sécheresse, les colons sont appropriés les meilleures terres. Donc les récoltes déjà maigres sont de toute façon pas redistribuées. Le contexte est extrêmement tendu. Il n'y a aucune place pour les velléités indépendantistes au regard de la situation internationale. Les migrations vers la métropole sont interdites. Hein, on ne va quand même pas accueillir la misère qu'on sème. Et en Algérie, la pénurie est encore plus importante qu'en France, et la disette, elle touche plus particulièrement les populations musulmanes. Dès 1941, il y a des mutineries de soldats algériens qui sont également violemment réprimées. Dans la population, si en France la collaboration est plutôt bien assumée, en réalité la population algérienne, elle refusera bien souvent de livrer les juifs d'Algérie. Et environ 150 000 Algériens s'engageront aux côtés du général de Gaulle pour les campagnes d'Italie et d'Allemagne, c'est-à-dire pour sauver la France du péril fasciste. Alors comme ça a été le cas pendant la Première Guerre mondiale, c'est les populations colonisés qui vont servir de chair à canon pour les besoins de l'Empire, Empire qui poursuit pendant ces guerres-là son œuvre de pillage tranquillement, et les premières victimes donc toujours seront les colonies. Alors au retour de la guerre, ce 8 mai 45, il s'agit en fait pour le général de Gaulle de montrer dès le premier jour de paix, de montrer que les liens coloniaux ne changeront pas, que les soldats algériens rescapés se sont battus pour la liberté des autres et pas du tout pour la leur. Le jour est parfait pour rappeler à l'ordre celles et ceux qui auraient cru à un vent de liberté. Et
surtout que les Américains, qui sont les vrais vainqueurs, annonçaient à tout le monde le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et il y avait ça aussi.
Et voilà, et du coup, Kateb Yassine nous parle un peu mieux de son expérience personnelle de cette sordide journée, puisqu'il était dans les rues de Sétif, adolescent, au moment de cette répression.
Kateb Yassine, le 8 mai 1945, vous êtes à Sétif.
Oui, ce sont des événements qui ont eu lieu à Sétif et à Guelma, c'est-à-dire deux villes de l'Est algérien. Et ça a été un massacre, un véritable massacre, qui n'a pas manqué de laisser des traces. D'autant plus que pour moi, j'ai été touché dans ces deux villes. Ça s'est produit, bon, j'étais jeune, j'avais 15 ans, donc je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, mais enfin bon, grosso modo, c'était la fin de la guerre, la victoire sur les nazis. Donc, c'était un grand événement, c'était la fête. On a entendu sonner les cloches, et puis tout de suite la rumeur s'est répandue que le lendemain on serait libre. C'était bon, un jour de liberté. Et donc, le 8 mai au matin, il y avait une manifestation officielle prévue au centre de la ville. Et il y avait une manifestation populaire. Donc, c'était un jour de grande espérance, dans un sens, pour les Algériens. Et c'était, à cette île, c'était jour de marché. C'était un mardi. Et il y avait une foule énorme. Bon, moi, j'ai vu venir le cortège. Au début, il y avait les scouts. Puis après, des étudiants, des militants. J'ai reconnu parmi eux des copains de classe. Bon, alors ils m'ont fait signe et je me suis joint au cortège sans trop savoir ce que ça signifiait. Et puis, tout de suite, ça a été les coups de feu. Bon. Alors, les coups de feu, la panique, parce que cette foule énorme qui reflue. J'ai une petite fille qui a été écrasée devant moi, là, c'était vraiment terrible. Parce qu'il y a eu vraiment la panique, les gens voulaient se sauver, dans tous les sens. Et puis, bon, il fallait que je rentre chez moi, puisque j'habitais dans un village à 45 km de là. Bon, donc je suis monté là, à l'avant du car, et j'ai vu, alors à ce moment-là, des choses terribles, parce que le peuple venait de toutes parts. J'ai vu ça comme vraiment comme une fourmilière. La terre est devenue une véritable fourmilière. Vraiment, je me demandais d'où venaient tous ces gens. Comment j'avais pu ne pas les voir avant. Mais on avait l'impression qu'ils sortaient de la terre. C'est de toutes parts. Ça grouillait de partout. Et puis, il y avait des rumeurs folles. Je sais pas, certains disaient que les Turcs avaient débarqué à Bougie. Je sais pas, moi. D'autres disaient que, ça y est, que toute l'Algérie s'était libérée. Enfin, on racontait un tas d'histoires. Et puis, il y avait une grande fièvre, naturellement.
On va revenir un petit peu en détail hein, après cet extrait de Kateb Yacine qui a vécu du haut de ses 15 ans, presque 16, cette journée à Sétif. Eh bien, ce qui s'est passé à Sétif, Guelma, à Karata, mais aussi à Constantine et les jours qui suivent dans d'autres villages notamment. Hein, revenons-y et contextualisons un peu. En avril 1945, Messali Hadj, donc le chef hein, des indépendantistes en Algérie, est enlevé puis déporté, ce qui prépare l'incendie populaire. Exaspérés par ce coup de force contre leur leader, les indépendantistes du PPA, le Parti du Peuple Algérien notamment, font la libération de Messali Hadj un objectif majeur et décident de défiler à part le 1er mai déjà, hein, sans la CGT et les PC français et algériens qui restent muets sur la question nationale. Et déjà ce 1er mai à Oran et à Alger, la police et des Européens tirent sur les cortèges indépendantistes, faisant plusieurs morts, des blessés, de très nombreuses administrations. Mais la mobilisation ne lâche pas, et donc ce 8 mai, le Nord constantinois s'apprête à célébrer la victoire des Alliés, tout en rappelant à la France les revendications indépendantistes, et ce, par des manifs pacifistes. Le mot d'ordre était très clair, pas de mot d'ordre armé, pas de mot d'ordre insurrectionnel. À Sétif, une foule d'au moins 10 000 personnes défile dès le matin, pacifiquement et non armée. Hein, il est bien dit aux paysans qui sont venus des alentours de déposer leurs armes. Ils scandent des slogans de type « Indépendance »,« Libérer Messali Hadj », »,« L'Algérie est à nous » et osent sortir un drapeau du PPA, le Parti du Peuple Algérien, futur drapeau algérien. C'est là que tout s'embrase, même si on le verra après, il y a bien eu une préparation de ce massacre, hein, mais un policier tire sur ce porteur de drapeau, rapidement suivi par des coups de feu venus des Européens attablés sur une terrasse de café ou même de leur balcon. Et surgit alors cette fameuse préparation du massacre des Algériens. Une milice d'Européens est formée et armée. La police, l'armée, la gendarmerie sont déployées. La chasse à l'homme et la femme musulmane commencent et durent plusieurs jours à Sétif. À Guelma, la situation est similaire. Une manif pacifiste dans l'après-midi, un drapeau algérien qui est déployé, l'ordre est donné de tirer sur le porteur et des milices meurtrières dirigées par le sous-préfet commencent leurs tueries et leurs arrestations massives. Les civils européens et la police se livrent déjà dès 8 mai à des exécutions massives et à des représailles collectives. Et pour empêcher toute enquête, ils rouvrent des charnières et incinèrent les cadavres dans des fours à chaux. Et oui, car les cadavres, ça laisse des traces. À Karata, c'est un peu différent. Proche de Sétif, petite ville, petit village, il n'y a pas de défilé de prévu dans ce petit village tranquille. Mais en fin de matinée, on y apprend les tueries de Sétif. Les Européens prennent peur et s'arment, tandis que des habitants de Karata parcourent tous les villages alentours en appelant la population à se rassembler à Karata. 10 000 personnes s'y retrouvent la nuit et manifestent, révoltées, déchaînées. Ici aussi, l'armée française et les Européens tuent et massacrent. Suite aux assassinats, Dans ces trois villes notamment, des groupes d'Algériens ripostent en tuant des Européens. S'ensuit une répression extrêmement violente dans les rues et les quartiers de Sétif et Guelma, alors que la presse française parle abusivement de terrorisme algérien. Pendant une semaine, du 8 mai 45, pendant une semaine, l'armée française, renforcée par des avions et des chars, et sous les ordres directs du gouvernement français composé de membres du PS et du PC notamment, se déchaîne sur les populations de la région et tue sans distinction. Cette extermination fera en une semaine 45 000 morts.
Et après ces épisodes sanglants, il y aura aussi d'autres journées de mobilisation où les exactions continueront pour maintenir l'ordre colonial. Alors De Gaulle, qui est particulièrement attaché à cette colonie, il va tout mettre en œuvre pour faire cesser la contestation. Donc à la répression sanglante s'ajoutera progressivement une politique d'effort social pour tenter de marginaliser les indépendantistes en offrant notamment des rénovations urbaines, des constructions d'hôpitaux et une aide humanitaire. Et donc c'est sous la présidence du gouverneur Yves Châtaigniaud que seront entrepris ces différents travaux qui visent à pacifier les velléités indépendantistes des Algériens. On écoute tout de suite un extrait des actualités un an après le massacre de Sétif.
Dans Sétif, rendu au calme, au travail, à la paix française, dans Sétif, où se sont effacées les traces des regrettables incidents de l'an dernier, le gouverneur général Yves Châtaigniaud est venu montrer que rien ne subsiste dans l'esprit français de ce qui fut l'erreur d'une journée. Sétif, depuis, a vu grandir l'œuvre française. C'est ce qu'a constaté le gouverneur en visitant l'école professionnelle où les jeunes musulmans s'appliquent à la connaissance des techniques modernes. C'est ce qu'il a constaté aussi en visitant l'hôpital de Sétif et en y décorant une infirmière musulmane, mademoiselle Messaï, qui se distingua particulièrement lors du tremblement de terre au Hodna. Le gouverneur général a rendu hommage à l'esprit de fraternité. C'est de cet esprit.
Alors, on a coupé un peu sèchement, hein, mais pour rappel, l'ORTF dépend directement du général de Gaulle et est un outil de propagande de l'État français, on l'a bien vu sur ce court extrait, et ça permet donc à l'État français de faire passer ce que bon lui semble. Alors, de ces massacres, ces massacres vont laisser dans la société algérienne une cicatrice jamais refermée et une haine profonde envers l'armée française.
Tu m'étonnes.
Justifié.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait le comprendre, effectivement. Mais également des traces au sein de l'unité du mouvement nationaliste et indépendantiste. Certains considérant effectivement que le PPA, le Parti du Peuple Algérien, et ses dirigeants avaient joué les apprentis sorciers. C'est la fin de l'union du camp nationaliste en Algérie. Et entre 1946 et 1954, va se structurer une organisation paramilitaire à l'échelle nationale. Alors qu'en 1952, les forces de l'ordre tirent à nouveau sur la foule à Orléansville. Le FLN, le Front de Libération Nationale, organisation clandestine très structurée et armée, lance une insurrection armée donc sur plusieurs points du territoire en novembre 1954, déclenchant côté français une réaction dite de maintien de l'ordre, permettant des exactions toutes plus terribles les unes que les autres, et côté algérien, 8 années de guérilla qui déboucheront sur l'indépendance en 1962.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. On s'est auto-rediffusé, du coup c'est toujours les mêmes voix, mais c'était une émission d'il y a quelques années sur le 8 mai 45 en Algérie. On passe tout de suite du côté du Canu Info aux actualités internationales.
International.
Et on fait du coup tout de suite le point sur la Birmanie.
Depuis le coup d'état militaire en Birmanie, des dizaines de milliers de manifestants et de manifestantes se soulèvent tous les jours contre le régime autoritaire et son armée appelée la Tatmadaw, qui a déjà fait plus de 800 morts. Alors pour rappel, le 1er février dernier, l'armée birmane s'est emparée du pouvoir par un coup d'état. En parallèle, les putschistes ont arrêté Aung San Suu Kyi, dirigeante de la Ligue Nationale pour la Démocratie, la LND, qui avait gagné les élections législative de novembre. Économiquement, la Birmanie est l'un des pays du sud-est asiatique les plus pauvres, avec un salaire minimum mensuel de 63 dollars. Mais le pays a connu l'une des croissances les plus rapides ces 10 dernières années, suite à la soi-disant ouverture démocratique libérale entamée depuis 2011, qui a permis l'introduction massive de capitaux occidentaux et surtout chinois. La crise sanitaire a renforcé la précarisation des travailleurs et des travailleuses qui étaient déjà dans une situation très difficile en raison de l'inflation et des bas salaires. La baisse drastique des commandes, par exemple pour l'industrie du textile, a également largement favorisé des licenciements massifs. Pourtant, depuis le coup d'État, la population résiste et ne se laisse pas faire. Ça a commencé, on en a beaucoup parlé ici, par des manifestations géantes, puis dans un second temps, il y a eu une grève générale, et maintenant, c'est au tour de la lutte armée qui scande la riposte devenue entre-temps complètement insurrectionnelle. En effet, des affrontements majeurs ont lieu entre l'armée putschiste et les armées dites ethniques dans les États. Alors, on va mettre une carte sur le blog des Canu Info pour se repérer un peu. Mais donc, des affrontements entre l'armée et d'autres armées ethniques dans les États de Kayin, donc c'est le long de la frontière avec la Thaïlande, ainsi que dans l'État du Kachin, au nord-est, le long de la frontière avec la Chine. Dans ces deux États, ce sont donc des armées d'indépendance qui sont déjà structurées depuis plusieurs années, qui combattent contre l'armée putschiste. L'armée de libération nationale Karen, par exemple, à l'est du pays, a déclaré avoir tué près de 200 soldats du régime. De leur côté, les forces de l'Alliance du Nord ont déclaré, elles, avoir tué des dizaines de soldats de la junte, au nord cette fois-ci du pays. Mais il y a aussi d'autres affrontements de type plutôt guérilla qui ont lieu dans l'État Chine à l'ouest et dans les régions de Sagang, le long de la frontière avec l'Inde. Cette fois-ci, ce sont des groupes informels de civils et de militants qui se structurent autour d'attaques très ciblées. Une attaque d'un avant-poste de police gardant le gazoduc chinois a été ciblée il n'y a pas longtemps, par exemple. Mais aussi des assassinats de fonctionnaires nommés par la junte ou encore des attaques de comicos ponctuent ainsi la résistance armée. Les habitants de Kalei, par exemple, dans l'ouest de la région de Sagan, ont décidé de prendre les armes, formant même un camp de repli et d'organisation dans la ville de Taran, qui a duré une dizaine de jours avant de se faire démanteler par l'armée après des heures et des heures de combat. Certaines de ces villes et de ces cantons sont depuis longtemps des bastions de l'activisme politique birman et leurs habitants ont été fortement impliqués dans le soulèvement national de 1988 d'abord, puis dans les manifestations dirigées par les moines en 2007 qu'on a appelé la révolution Safran. Bref, le pouvoir militaire n'a plus seulement affaire à une mobilisation de masse et à une grève générale, il est désormais confronté à des attaques armées de plus en plus coordonnées et meurtrières d'une région à l'autre. Parallèlement à ça, un gouvernement d'union nationale s'est formé en avril pour se poser comme alternative politique au régime militaire de la junte. Mais représentant avant tout les intérêts de la bourgeoisie en place, il est constitué de députés par exemple de la Ligue nationale pour la démocratie et de membres des organisations des minorités nationales. Pour l'instant, ce gouvernement provisoire a appelé à former sa propre section armée, mais il est loin du terrain où se mènent les contre-attaques contre la junte. Force et soutien au peuple birman en lutte.
Et on enchaîne tout de suite avec une petite transition musicale.
On va écouter un groupe espagnol, une rappeuse, qui s'appelle BKC, avec son morceau Te cuento mi parte.
Es la verdad, lo digo. Hay días en que creo que esta mierda va a cambiar y luego escucho la... la polla. No estoy de coña, esto no es una broma. No somos mujeres de goma. Nos imponemos rectas sin dejarnos machacar. Por la educación sexista ya está bien de aguantar esta cruda realidad. La podemos cambiar con mujeres como tú. Dejar de lado el tabú. Buscamos lengua con calidad. Riqueza mental. No más signos de machismo ni siquiera en tu léxico. Sabemos esto. Estamos atacadas cada vez que dices tu sexo. Es verdad que estamos aplastadas. Mujeres en el olvido del olvido. Ahora empezamos a hablar. El cambio está abierto ya. Guerra de reforma. La mujer viene a tomar su propio lugar. Así que escucha ya. Nuestras voces tan violentas al que haya tanta desigualdad. Yo siempre represento el despertar violento. A través de este pico me peto. Me peto de arriba abajo. Parto y reparto estas rimas positivas. Por dejar tu lenguaje estancado en el pasado. Tengo el poder en mi mano, no lo ves. El micrófono uso para decirte que no quiero ni un abuso. Rapeando yo te asusto. Uso para decirte que no quiero ni un abuso. Siempre he querido tumbarte, ahora te cuento mi parte. Esta es mi forma de darte, mi gente sabe atacarte. No me importa tu muerte, siempre agasto tu suerte. Quiero verte de frente, darte un golpe bien fuerte. Siempre he querido tumbarte, ahora te cuento mi parte. Esta es mi forma de darte, mi gente sabe atacarte. No me importa tu muerte, siempre agasto tu suerte. Quiero verte de frente, darte un golpe bien fuerte. BKC, no te hacen homenaje, te hacen el equipaje para que partas de viaje. Vocabulario salvaje, ataque y fusilaje. Nuestras rimas con linaje, no hay Dios que nos rebaje, no. Porque no hay Dios.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, il est 19h27, vous venez d'écouter Te Cuento Mi Parte de BKC, et on est toujours sur l'actu internationale, et on va tout de suite du côté de Jérusalem-Est, où il y a eu des émeutes.
Oui, l'État d'Israël continue inexorablement, par la violence et la coercition, de coloniser les territoires palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. En ce moment, sa forme la plus violente se situe dans le quartier de Cheikh Jarrah, à majorité palestinienne, bien sûr, se situant officiellement dans les territoires palestiniens. Depuis plusieurs décennies, et même plus précisément depuis 1967, on y reviendra, ses habitants et habitantes sont confrontés aux manœuvres des colons israéliens visant à prendre possession des lieux et à anéantir tout héritage arabe par l'exil forcé et l'expropriation. C'est exactement ce que continue à faire l'État d'Israël, puisque plusieurs dizaines de familles sont aujourd'hui à nouveau menacées d'expropriation. C'est donc pour cette raison que depuis bientôt une semaine, des centaines et des centaines de Palestiniens et de Palestiniennes manifestent et affrontent Tsahal, l'armée israélienne et la police israélienne, massivement présentes dans les rues de Jérusalem-Est. Et comme toujours, le combat est profondément inégal. Tsahal et la police frappent fort, très fort. Le nombre de Palestiniens et de Palestiniennes blessés explose. Plus de 300 déjà, dont au moins 200 hospitalisés et 7 dans un état critique, comme le nombre d'incarcérations qui explose également. Ah oui, vous le savez sans doute, Jérusalem est considérée par Israël comme sa capitale, je cite, « une et indivisible ». Sentiment largement renforcé depuis que les États-Unis y ont déplacé leur ambassade sous la présidence de Trump, non remise en cause par l'équipe Biden. Israël, c'est depuis sa constitution officielle en 1948 le bras armé des États-Unis au Proche-Orient et donc soutenu par tous les présidents des États-Unis depuis lors, quelle que soit l'orientation politique. Et ce, même lors des multiples annexions des territoires palestiniens par la force, que ce soit en 1948, en 1967 ou en 1973, ce qui a permis de réduire à peau de chagrin les territoires palestiniens autour de la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et de manière plus ou moins larvée ces dernières années. D'ailleurs, la partie dite orientale de la ville de Jérusalem-Est a été annexée en 1967 par Israël pendant cette fameuse guerre des six jours. Et figurez-vous que tous les ans, Israël organise un défilé annuel nommé Yom Yerushalayim pour commémorer cette colonisation par la force et la guerre. Cette marche a lieu tous les ans entre le 9 et le 10 mai, soit hier et aujourd'hui. Et malgré la situation hyper tendue de ces derniers jours, eh bien, la police et l'État israélien ont autorisé la tenue de ce défilé. Clairement, le gouvernement de coalition de plus en plus d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, au pouvoir depuis 2009, a souhaité enfoncer le clou en maintenant cette commémoration. C'est une véritable provocation, alors qu'en parallèle, les groupes israéliens d'extrême droite harcèlent en permanence la population palestinienne de Jérusalem-Est. Les Palestiniens et les Palestiniennes ont bien raison de se révolter face à cette injustice toujours plus détestable, injustice couverte et soutenue par l'impérialisme américain et plus largement occidental. Ce qui est en train de se dérouler à Jérusalem-Est n'en est très probablement qu'à ses débuts, et les affrontements vont aller en grandissant sous nos yeux impuissants puisque rien, ou presque, ne se passe à l'échelle internationale, à la base, pour faire pression sur l'État d'Israël.
Et on continue à l'international avec les élections en Espagne.
Ouais, situé à la droite extrême de l'échiquier politique espagnol, le parti populaire d'Isabel Díaz Ayuso est le grand vainqueur des élections régionales de Madrid, loin devant les divers gauches. En ajoutant les voix de l'autre parti d'extrême droite, Vox, le bloc réactionnaire compte 78 députés sur un total de 136 sièges. Ça fait mal. À quelques jours de l'anniversaire des 10 ans du mouvement des indignés, c'est une défaite sans appel pour Pablo Iglesias et son parti progressiste Podemos, fondé, on le rappelle, en 2014. Et vu le néolibéralisme autoritaire et libertarien du Parti Populaire, et vu les positions très 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 conservatrices d'Isabel Díaz Ayuso, à qui revient désormais donc le gouvernement régional de Madrid, et dont le slogan de campagne était quand même « communisme ou liberté », faut le faire, cette élection donc n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour les classes populaires espagnoles de Madrid. Rappelons qu'en Espagne, le taux de chômage s'élève à 15,3% de la population active et qu'il atteint les 37% chez les moins de 25 ans. Et au-delà des caractéristiques économiques, sociales et politiques qui sont propres à la région madrilène, la victoire de la droite extrême à Madrid est un véritable défi pour le gouvernement de coalition entre, on le rappelle, les socialistes du parti PSOE et Podemos, gouvernement dirigé par le socialiste Pedro Sanchez. Puisque ce gouvernement socialiste suit une politique économique libérale qui n'apporte que des mesures palliatives à l'urgence de la situation pour les plus précaires, il n'est donc pas étonnant que la droite tire un profit électoral de l'échec et du rejet de ses politiques réformistes. Plus largement, on peut dire que la victoire du Parti populaire à Madrid sonne le glas pour le cycle politique ouvert après le 15 mai de 2011. En effet, depuis les mobilisations massives des années 2011 à 2015, en réaction donc à la crise économique, nombre de militants, de militantes et de différents secteurs du mouvement social ont été cooptés par l'appareil étatique de coalition. Le résultat, c'est qu'une partie importante des luttes de quartier pour logement par exemple, des luttes pour l'environnement, des luttes antiracistes, des luttes féministes, et ben un certain nombre de ces secteurs en lutte a diminué au profit d'un attentisme face à une action législative gouvernementale qui tarde à venir et qui finalement ne vient pas. D'autre part, la stratégie de Podemos a été mauvaise, il faut le dire. Pablo Iglesias a utilisé le raidissement idéologique de la droite traditionnelle ainsi que le renforcement des courants populistes d'extrême droite pour brandir la fameuse menace fasciste et tenter de faire adhérer les électeurs à sa politique qui, pourtant, sur le plan étatique, se traduisait simplement par une alliance avec le PS, un parti donc traditionnel du bipartisme néo-franquiste. De la même manière, la démission d'Iglesias au lendemain des élections exprime l'échec de la stratégie réformisme de cogestion, d'électoralisme et de compromission avec les partis et institutions du régime espagnol. Alors s'il n'y a plus rien à attendre du gouvernement de coalition, espérons qu'un nouveau mouvement social d'ampleur permettra de freiner les politiques d'austérité et les velléités de la droite extrême pour les prochaines élections.
Et on passe tout de suite à l'actualité nationale.
National.
Avec un sujet sur une nouvelle tentative de licenciement abusif à la RATP.
Et oui, on n'arrête plus la direction de la RATP depuis un bon paquet d'années. C'est vraiment le grand n'importe quoi patronal. L'impression que tous les deux mois ou presque, il y a une nouvelle affaire, un nouveau conseil de discipline, une nouvelle tentative de licenciement. À chaque fois ou presque, figurez-vous, hasard peut-être, que ce sont des syndicalistes qui sont visés, et notamment des syndicalistes très fortement impliqués dans les grèves de ces dernières années. On rappelle aussi, on en avait déjà pas mal parlé, en 2020, on a découvert sur de nombreux sites des fichages illégaux par la direction sur les salariés, notamment sur le nombre d'arrêts de travail, d'arrêts maladie, de grèves ou même de congés maternité. Alors, ce coup-ci, la RATP a décidé de s'attaquer à Ahmed Berahal, un syndicaliste et également référent harcèlement de l'entreprise. Ouais. Donc il était convoqué aujourd'hui en conseil de discipline à Paris pour harcèlement moral d'un chef, alors que ce dernier tentait de dénoncer des violences sexistes et sexuelles répétées à la RATP, notamment de la part d'un chef. Donc, On récapitule à la RATP qui se vante de faire preuve d'une tolérance zéro face aux agissements sexistes, a décidé de faire passer en conseil de discipline un syndicaliste qui tentait de relayer à sa direction une main courante posée par une salariée portant de très graves accusations d'agression sexuelle à l'encontre d'un chef. Voilà ce qui se passe à la RATP. Alors la réaction ne s'est pas faite attendre. Déjà, il y a beaucoup de soutien auprès de ce syndicaliste, mais il y a aussi plusieurs dizaines de travailleuses de la RATP qui se sont mises à faire des vidéos racontant la violence sexiste qu'elles subissent sur leur lieu de travail. Alors, pour ne citer que agression sexuelle étouffée par la hiérarchie, harcèlement des femmes enceintes, refus d'arrêt de travail suite à des agressions sur ligne, refus d'aménagement du temps de travail pour pouvoir allaiter, chantage et pression managériale pour bénéficier d'aménagement d'horaire pour les mères isolées, refus de chômage partiel pour garde d'enfants. Voilà le tableau accablant pour la direction de la RATP qui, peut-être faudrait-il le rappeler, est dirigée par la PDG Catherine Guillouard et la présidente Mobilité Île-de-France, une certaine Valérie Pécresse, ce qui nous montre aussi à quel point les intérêts des travailleuses peuvent s'opposer aux intérêts des femmes qui sont aux manettes de cette oppression patronale. Pour info, j'ai tiré ces informations du collectif féministe et lutte de classe du Pain et des Roses si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur ces agissements à la RATP. Et je rappelle donc que la RATP, c'est la régie autonome des transports parisiens, que c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, donc en partie public, en partie privé, géré comme du privé, mais en grande partie, tout ça, c'est grâce à l'État et à la région.
Et qu'est-ce qui se passe donc du côté des lycées ?
À l'approche du bac, les lycéens et les lycéennes se mobilisent autour du mot d'ordre « bac noir ». Ils dénoncent le bac à la Blanquer, une année marquée par des conditions d'enseignement dégradées et aussi une gestion sanitaire plus que catastrophique. Après un an de Covid-19, lycéens et lycéennes ont alterné des périodes de cours à distance et des périodes de cours en demi-jauge. Ils sont donc dans une situation qui les a largement pénalisés dans la préparation des examens du bac. Et c'est surtout le fameux grand oral qui concentre les colères lycéennes. Vous savez, cette pépite qui est au cœur du dispositif pédagogique de Jean-Mich, dont ni prof ni élève n'ont vraiment encore compris en quoi ça consistait vraiment. Mais en gros, c'est une épreuve oral, à mi-chemin entre les oraux des grandes écoles et l'entretien d'embauche, qui cumule des critères d'évaluation classistes et discriminatoires. La confiance en soi, par exemple. Face au maintien des épreuves et aux incohérences des protocoles sanitaires successifs, plusieurs lycées ont donc été bloqués depuis une semaine par les élèves, qui ont dû trop souvent subir des interventions policières musclées. Une dizaine de blocages, donc, ou tentatives de blocage, ont eu lieu à Paris, mais aussi à Saint-Étienne, à Saint-Nazaire, à Toulouse, à Grenoble, à Nantes ou à Besançon. Une première victoire a quand même déjà été arrachée pour l'épreuve de philo, où la note du contrôle continu sera gardée si elle est meilleure que celle de l'examen, et d'autres sujets seront proposés pour les candidats au bac. Mais cela ne suffit pas pour la plupart des lycéens et des lycéennes qui exigent le retrait total des épreuves du bac en faveur du contrôle continue, force à eux et à elles.
Et on enchaîne tout de suite donc avec un petit son, un dernier son d'une rappeuse zambienne qui nous vient de Zambie donc, qui s'appelle Sampa the Great et ses Final Form.
Witness in me, you can make me feel. I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. What they started and we made it. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle du radio, c'est des radios, pas du radio, c'est toujours le Canu Info du lundi. Vous venez d'écouter Sampa the Great, rappeuse zambienne, et c'était son morceau Final Form. Et tout de suite, nous passons au, effectivement, attention, forcément ça aurait été trop facile.
Local.
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 Et donc, au local, on va vous parler d'une action qui a eu lieu ce vendredi matin.
Et oui, la mobilisation contre la réforme de l'assurance chômage se poursuit tant bien que mal. Alors, tant bien que mal, car après plus de 2 mois de mobilisation et d'occupation, plusieurs lieux culturels occupés ont été évacués ces derniers jours. Auxerre, Douai, Rennes, Charleville-Mézières et bien d'autres encore sont menacés. Alors, on vous a parlé la semaine dernière avec les occupants de l'Opéra de la Coordination Nationale qui s'est tenue à Villeurbanne il y a 2 semaines. Cette coordination a donc débouché notamment sur un calendrier d'action coordonné à l'échelle nationale et la première avait donc lieu ce vendredi. Des blocages économiques visant la grande distribution ont donc eu lieu dans plusieurs villes de France en simultané. À Villeurbanne, c'est l'ancienne Carrefour qui était visée. Les occupants ont donc envahi autour de 9h30 les rayons de Carrefour Gratte-Ciel avant d'aller bloquer les caisses. Alors après une petite heure de négociation, ils ont pu repartir avec 3 caddies à redistribuer. Une action d'autoréduction réussie et c'est assez rare pour le souligner et le saluer. Pour rappel, Carrefour, c'est 755 millions d'aides de l'État grâce au CICE, une augmentation de 7,8% du chiffre d'affaires en pleine pandémie et la perspective de dégager plus d'1 milliard d'euros de cash chaque année. Et ouais, c'est pas la crise pour tout le monde. Et pourtant, malgré tout, c'est un plan de restructuration avec 50 anciennes qui vont être mises en gérance, des licenciements à la clé, évidemment. Il y a d'ailleurs des mobilisations un peu partout des salariés de Carrefour. À Port-de-Bouquin, par exemple, l'enseigne a carrément attaqué les grévistes en justice 2 fois, mais a systématiquement été débouté par le tribunal de commerce. Carrefour, c'est aussi son sous-traitant Cogepar, contre lequel un mouvement social avait eu lieu il y a 2 ans. Maltraitance, cadence infernale et bien sûr répression syndicale pour les salariés mobilisés. Bref, face à cette grande distribution de l'enfer capitaliste, opposons partout de grandes redistributions.
Et pour terminer cette émission, aujourd'hui, une interview sur un sujet chaud bouillant du moment, la Colombie.
Et oui, on voulait faire un point sur la situation en Colombie où des manifestations ont lieu depuis le 28 avril. Alors d'abord pour demander le retrait du projet de réforme fiscale du gouvernement, mais au-delà pour dénoncer les inégalités, la violence et la corruption. Ce mouvement d'ampleur est depuis réprimé dans le son et on accueille tout de suite Giancarlo et Pablo pour nous en parler. Bonjour et merci d'être là.
Bonjour.
Bonjour, merci. Merci d'avoir invité.
Est-ce que déjà vous pouvez nous faire un peu, nous expliquer un peu le point de départ de ces manifestations, de cette mobilisation, ce projet donc de réforme fiscale ?
Bien sûr. Alors donc, bon,
tout le contexte, il demeure, il faut préciser que c'est l'année dernière, en 2019, pendant des grosses manifestations et des grosses mobilisations qui ont eu lieu à Bogota à cause d'une crise économique avant la pandémie. Et tout ça s'est arrêté à cause du confinement et tout le contexte. Et là, maintenant qu'il commence la réouverture un peu vers leur normalité, le pays il revient sur la même logique d'avant. Donc tout ça a explosé à cause d'une réforme fiscale qui a été mise en place pour le gouvernement. Donc cette réforme fiscale, elle devait se faire parce que la Colombie, l'État, il est beaucoup endetté. Et parce qu'ils sont pris presque 44,4 millions de pesos. Ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça représente presque le 60% du PIB national de Colombien. Donc, pour payer et la dette acquise. Donc, le problème, il est sur le fait que la réforme, il cherche de récolter cet argent, les 73% de cet argent, et de personnes naturelles. Donc, normalement, ça se fait avec les entreprises. Et cette fois-ci, c'est les personnes naturelles qui doivent assumer et l'augmentation des prix sur la plupart des produits de nécessité. Donc, c'est à ce moment-là que ça explose et les manifestations, elles commencent. Donc, au niveau de contexte, on est là.
Alors, ce mouvement-là, déjà, il a réussi à faire démissionner un ministre. Mais est-ce que vous pouvez nous parler donc de ce ministre, mais aussi de ce gouvernement et de ce pouvoir en place là, depuis un certain nombre d'années ?
Alors oui, donc les ministres, c'était un ministre des Finances qui s'appelle Alberto Carrasquilla. C'est lui un peu le symbole de cette rupture avec l'État, parce que lors d'une interview avec une journaliste, ils lui ont demandé le prix d'un œuf. Et quand il a dit le prix d'un œuf, il s'est complètement trompé. Et c'est là où c'était lui devenu le symbole de la cause. Et après, ce qu'il y a derrière, c'est le gouvernement de Iván Duque. C'est le président de Colombie. Il appartient au parti Centro Democrático, qui parle de centre démocratique. C'est un parti qui a été créé par Álvaro Uribe, qui est notre ex-président, qui est au pouvoir, on va dire, depuis 2002. Il a commencé en 2002 son premier gouvernement. Il a été réélu. Et après, la loi, ça ne leur permet pas de se faire réélire plus. Donc, il a quand même essayé de les faire, mais ça n'a pas passé au Congrès. Donc, lui, il a choisi son ministre des Défense à l'époque et pour mener son gouvernement. Lui, il a été élu président. Après, il a un peu trahi. Donc, c'était 8 ans, un cœur d'opposition, de l'oulivisme en opposition. Et maintenant, Iván Duque, celui dont on parle, c'est le nouveau élu de ce monsieur Álvaro Uribe. Que tout ça pour dire, ça fait presque 20 ans qu'il est au pouvoir, soit directement ou indirectement.
Et là, le mouvement de contestation, il est très très large en Colombie. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de sa composition et un peu, voilà, quelles sont les forces en présence ?
Déjà, le mouvement, il répond à une crise de représentation générale des citoyens colombiens, avec les institutions, avec les partis, avec la classe politique en général. Et il est aussi intégré par des syndicats d'enseignants, FECODE par exemple, par des universitaires, par des syndicats de travailleurs, et par exemple ceux qui transportent la nourriture au long du pays, par des agriculteurs. Et c'est un peu une explosion, un rejet à une classe politique. Il y a aussi la Minga Indígena, c'est une organisation qui est incorporée par plusieurs peuples indigènes et de la Colombie et qui s'organise de manière annuelle et qui en fait montre un peu sa volonté de sortir un peu du moment où ils sont entre une violence causée par le trafic de drogue dans nombreuses régions du pays, et ils sont à l'entrefeu de nombreux groupes paramilitaires, des anciennes guérillas, et qui essayent de batailler pour avoir le contrôle de ce territoire. C'est pour ça qu'ils joignent un peu cette volonté d'incorporer la lutte. Et aussi, il y a le précédent des leaders sociaux assassinés, et tout au long de... depuis que les accords de paix ont été signés en 2016. Et depuis, ça continue. Et en effet, c'est comment les médias ils traitent en fait toute cette situation. Alors, en général, ouais, je dirais que ce qui ressort le plus, depuis ma perspective, est cette indignation généralisée avec la représentation politique et même institutionnelle.
Alors, ce gouvernement, il est particulièrement autoritaire, il est habitué à réprimer très durement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette répression brutale actuelle dans les manifestations ou en termes de restrictions de liberté ?
Et tout à fait. Et bah, ce mouvement, comme mon collègue l'a dit avant, il a commencé avant, en 2019. Et après, en 2020, il y a eu, avec tous les mouvements George Floyd aux États-Unis contre et l'abus des policiers et le racisme, il y a eu un meurtre qui a été commis par des policiers sur un homme, un avocat. Javier Ordóñez, il s'appelait, il a été tué dans un commissariat. Et après ça, il y a eu des fortes émeutes à Bogota où autour de 19 citoyens ont été assassinés par les forces de l'ordre. Après ça, il y a eu une volonté dans la ville de Bogota de justement contrôler un peu toute cette situation, mais la violence des policiers souvent, elle n'est pas de la même façon dans toutes les villes du pays, parce que c'est un pays qui est composé par des nombreux, qui est un pays très différent, et les régions, il y a des acteurs différents dans les différentes régions qui en fait se joignent un peu à toute cette situation de manifestation. Et du coup, on voit que l'appareil de l'État, et surtout les SMAD, qui est un peu comme les CRS ici, ils utilisent des armements qui ont été payés par l'État pendant la crise de la pandémie, où ils ont dépensé plus de 200 millions de pesos dans des camions de guerre, littéralement, et qui souvent blessent, et même ils ont tué de nombreux manifestants au passé, le nom Nicolas Neira et Ilan Cruz, et qui fait en sorte que c'est déjà quelque chose qui venait d'avant, cette répression meurtrière des forces de l'ordre. Et souvent, celle-ci se justifie par le vandalisme, qui est mobilisé comme terme et dans tous les médias, surtout par les dirigeants politiques et le parti et Centro Democrático, que tout l'appareil médiatique et la plupart des représentants de ce parti, ils utilisent ce langage pour stigmatiser la manifestation pacifique. Et on voit en fait comment l'État, en effet, il commence à jouer ce jeu de contrôle effréné. On voit dans de nombreuses villes, notamment Pereira et surtout Cali, où la violence a dépassé largement et le contexte de manifestation, où on voit des policiers en civil et qui arrivent dans des quartiers et à la vue, pendant la nuit surtout, il y a des exécutions extrajudiciaires. Et le problème aussi, c'est la circulation d'informations qui est très difficile de comprendre. Du coup, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'incertitude de la part des Colombiens. Les gens, ils ne savent pas ce qui se passe. Et les médias traditionnels, elles racontent une histoire, les médias alternatifs une autre. Il y a beaucoup de désinformation, beaucoup de fausses informations. Et il y a une répression aussi médiatique où on voit qu'à travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup de censure dans le sens où des vidéos qui parlent ou qui montrent une certaine répression ou des infographies qui sont poignantes, elles sont souvent enlevées, ou on pourrait dire censurées. Même ça fait en sorte qu'il y a des réseaux alternatifs de transmission d'informations qui sont créés avec des applications qui ne peuvent pas être tracées de la même façon pour éviter justement ça. Du coup, il y a tout un mouvement qui se crée contre cette répression déjà médiatique et militaire, policière et en général c'est uniforme dans la répression.
Je pense que là, il faut ajouter aussi la particularité que la police en Colombie, ils sont à un traitement militaire aussi. C'est pas le cas dans la plupart des pays, parce qu'ils ont dû faire face quand même à la guerre pendant des années, et c'était eux souvent les plus touchés. Donc ça a créé aussi une relation dans laquelle, différemment aux autres pays de l'Amérique du Sud, on s'entendait bien avec les policiers. On avait une relation assez proche, parce que souvent, c'était les symboles de la seule protection que l'État pouvait donner aux gens dans les endroits les plus les éloignés. Après, le problème, c'est que vu qu'il y a eu le contexte de changement pour les accords de paix, tout ça, la police n'a jamais changé. Ça fait partie d'une des demandes plus fortes des manifestants. C'est vraiment la reconstruction de toute la police qui est conçue pour un temps de guerre. Donc, en gros, les manifestants, ils sont traités comme des révolutionnaires de... Comment on dit Subversivos.
Des subversifs.
Donc, ils sont traités comme ça, qu'on, c'est juste des citoyens en train d'exercer leur pouvoir démocratique.
Du coup, face à cette répression qui, on l'a entendu, s'exerce sur tous les plans, c'est quoi un peu les perspectives à la fois pour les Colombiens sur place, mais aussi ici en France ?
Là-bas, la perspective par rapport à la manifestation, et il y a beaucoup de volonté de continuer. Il y a un support énorme à l'extérieur comme en Colombie. Cependant, je crois, depuis ma perspective, qu'il y a quand même il y a beaucoup de peur. Il y a un peu un ras-le-bol aussi, comme la situation est hors de contrôle et l'État n'est pas capable de le contrôler dans certains endroits du pays. Et à l'extérieur, en général, et toute cette mobilisation, elle va à l'encontre, elle essaye de dénoncer les abus aux droits humains, qui est une chose qui sur laquelle la plupart des manifestants à l'extérieur sont d'accord, dans l'idée de plus de 45 personnes assassinées par les forces de l'ordre et plus de 300 disparus. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas s'ils sont morts. Et ça fait en sorte que les gens... Il rejette ça. C'est quelque chose qui semble évident, comme la police, elle ne doit pas assassiner les manifestants. Mais c'est pour ça qu'il y a cette mobilisation, je dirais, essentiellement au début, parce qu'il y a aussi des différences dans la communauté colombienne par rapport à la politique. Mais autour de cette idée de violence d'État, il y a un consensus.
Il y a aussi, je pense qu'en Colombie, la perspective, elle est beaucoup plus compliquée, dans le sens où il faut savoir qu'un peu le contexte éloigné de tout, c'est les élections en 2022. Et tout ce qui se passe, c'est aussi un peu les stratégies politiques pour empêcher celui qui va gagner en 2022, parce que l'Uribismo, je pense qu'ils savent très bien qu'ils vont perdre. Donc, soit il faut construire une opposition très forte qui puisse empêcher le prochain président de faire passer des lois et tout ça. Donc, ça se fait en augmentant les prix basiques pour le mécontentement de la population. Et qu'après, il y a aussi tous les discours très guerrières de l'extrême droite latino-américaine en général, de qu'on va direct aux guerres civiles. Donc, c'est compliqué dans ce sens-là. Mais bon.
Alors, ouais, il nous reste plus beaucoup de temps du coup.
Est-ce qu'il y a déjà des dates de mobilisation qui sont prévues ici à Lyon ?
Il y a eu une mobilisation qui a été faite le 10, le 10 de ce mois. On était à Place Bellecour. Et il y a une volonté de se réorganiser. Mais comme je vous dis, il y a souvent des
différences.
Oui, des différences entre la communauté.
Pas très concrétisé pour l'instant.
Ok, tout cas, on en parlera ici. Il y a également des cagnottes de soutien en ligne qu'on mettra sur le blog du Canu Info. En attendant, on reste vigilant à l'actualité et on se mobilise tous dès qu'il y a des dates de manif ou de rassemblement ici à Lyon.
Et on vous remercie
beaucoup
d'être venu nous parler de tout ça aujourd'hui.
Merci à vous.
C'était
merci
très
vous.
Intéressant.
Et on n'aura malheureusement pas trop le temps de faire un agenda.
Mais il n'y a que deux dates. Il y a demain une grève du personnel des services de réanimation qui appelle à un rassemblement à 14h devant l'hôpital Édouard Herriot. Donc ça, c'est demain. Et une deuxième date, c'est donc dimanche à Lyon. Il y a un nouveau collectif anticarcéral abolitionniste qui s'est constitué et qui est en partie dans l'organisation d'une marche pour l'abolition des quartiers disciplinaires avec le collectif